Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission dédiée aux programmeurs qui parle de technique, bien sûr, de code durable, mais aussi du métier en lui-même, de recrutement, de développement personnel ou encore d'entrepreneuriat pour t'accompagner dans une vie de développeur épanouissante. Alors, es-tu prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti ! Aujourd'hui, je suis avec Victor Mignot de chez Octo Technologies. Victor, bonjour.
Bonjour.
Octo, qui est notre sponsor de la semaine, merci les gars pour votre soutien, c'est super important pour aider à développer ce podcast. Merci encore. Et puis il y a cette question dans l'arène aussi, préfères-tu développer ta polyvalence ou ton expertise ? Et justement Victor, tu arrives avec un angle que je trouve assez original. Est-ce que tu peux déjà te présenter, c'est la première fois que tu passes sur le podcast, en une minute, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?
Alors, en une minute, ce que je fais aujourd'hui au sein de Octo Technologies, c'est du DevOps principalement. Donc, avec, comme d'habitude chez Octo, de Valence, le conseil où on va se retrouver à faire des audits. On va aller voir un peu ce qui se passe dans les entreprises et essayer de repérer les points bloquants. Donc, spécialement dans le delivery d'un produit, les points de friction et essayer de les aider à les éliminer, souvent à travers de réorganisations ou d'outils, etc. Et à côté de ça, je suis à même de développer souvent ces solutions qu'on propose, puisqu'on essaye de faire beaucoup d'automatisation avec tous les outils d'automatisation DevOps qu'on retrouve. On part sur le cloud, etc. On monte des architectures un peu novatrices avec tous les produits dont on entend parler un peu souvent, donc les clouds et les conteneurs.
Ok, et justement par rapport à la question de la battle, tu as amené un regard que je trouvais intéressant sur le rôle du DevOps dans la feature team. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus ?
Ouais, sans problème. Dans une feature team, souvent, on va démarrer donc un projet avec un DevOps qui va être assez central, surtout au début. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a besoin d'une infrastructure, la plupart du temps, dans le cadre donc d'un DevOps dans une feature team, qui a besoin d'une infrastructure et d'un process de livraison. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire très rapidement. Donc, le DevOps souvent va mettre en place son infrastructure limite en boîte noire, et l'équipe de développeurs va plus se retrouver à faire des features bien normées avec donc les user stories, avec de la valeur métier, etc. Ensuite, il y a une phase qui devrait être importante et qu'on oublie souvent, qui va être un peu cette phase où le DevOps il a mis en place des trucs. Des pipelines, des beaux tests automatisés, une belle infrastructure, du beau monitoring. Mais en fait, les développeurs, ils sont encore et toujours dans leur production de valeur. Et donc, ce transfert de savoir, parfois, peut être un peu oublié.
Ok. Mais du coup, effectivement, il arrive avec cette expertise, il met tout en place. C'est vrai que moi, souvent, en tant que développeur, la plateforme, il y a une affinité, il y a un plaisir dans ma première vie professionnelle. Je faisais à la fois le dev et la partie sysadmin. Mm-hmm. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde de garder une certaine curiosité vers ça. Et puis, c'est vrai que souvent, moi, je vois en tant que dev, on a tendance à considérer tout ça un petit peu comme des plateformes as a service. Tu vois, le DevOps, il nous livre un truc un peu magique. Déjà, quand il est impliqué dans l'équipe dès le départ, je trouve ça super et pas si répandu que ça, en fait, j'ai l'impression. Mm-hmm. Mais du coup, imaginons ce cas-là. Le gars, il vient d'arriver, enfin, il a mis en place toute l'infra un peu en boîte noire, comme tu disais. C'est quoi la suite logique ? Comment est-ce qu'il fait pour... Ça serait quoi ? Ça serait de transmettre ça au dev pour qu'il soit autonome, au moins sur des actions de base, c'est ça ? Et comment il le fait, ça ?
Alors... Ouais, c'est clair que c'est compliqué. Je vais revenir sur la partie où tu dis qu'il faut trouver quelqu'un qui est intéressé déjà, parce que effectivement, en fait, on peut pas forcer quelqu'un à s'intéresser au système, qui est quand même un pan assez particulier de l'informatique. Aujourd'hui, quand même, avec c'est vrai le DevOps, on se retrouve à avoir une abstraction quand même autour de tout ça, qui est plus ou moins, on a moins besoin d'avoir des connaissances en réseau, etc., quand on a une plateforme qui marche. Donc ça, c'est quand même assez positif. Mais c'est vrai que, moi, ce que je dis souvent, c'est quand même ce qui différencie pas mal, un sysadmin d'un ops, pardon, plus qu'un sysadmin d'ailleurs, qu'un développeur, c'est quand même, à un moment donné, il y a la prod, puisqu'on se retrouve beaucoup à avoir des développeurs en fait qui n'ont pas accès à la prod, hein, pour des raisons qu'on nous présente parfois comme légales, ou pour des raisons en fait qu'on ne sait pas expliquer. Mais donc il y a SetOps qui a cette vision de la prod, et qui va, c'est ça qui le différencie. Donc il faut quelqu'un en fait qui ait envie d'aller au-delà du fait que ça marche bien sur sa machine, et de se poser des questions de haute dispo, de comment on construit une architecture, qu'est-ce que ça veut dire les conteneurs, est-ce que c'est juste voilà, quelqu'un qui verra par exemple pas l'intérêt du cloud, pas l'intérêt des conteneurs, en fait je pense que on peut pas le forcer, ça c'est sûr, mais ça fera pas un bon candidat à un transfert de connaissances.
Ok, et maintenant imaginons que dans l'équipe on ait identifié des gens qui soient intéressés ou curieux de ces trucs là comment est-ce que tu assures la montée de compétences pour atteindre un niveau suffisant pour que le jour où le DevOps soit pas là pour une raison X ou Y, ben l'équipe soit capable d'avoir un certain niveau de service quand même?
Pour moi, il y a pas mal de moyens, au-delà du moyen technique sur lesquels je reviendrai après, de comment on fait effectivement pour faire une passion de connaissance. Je dirais que le premier moyen, ça va être de les intéresser à ce qui touche à leur application. Donc, par exemple, à tout ce qui va être observabilité autour de leur application. Donc, si on leur donne une stack de monitoring un peu efficace, et ben ça va les intéresser. C'est débile, par exemple, mais faire des tests de perf et leur montrer les courbes qui saturent sur le monitoring un peu système, et bah ça plaît à tout le monde normalement. Enfin, si c'est une application vraiment compliquée, on se dit ah merde, je vais devoir aller dedans alors que j'ai pas envie. Pourquoi cette mémoire?
Ouais, mais là t'as d'autres problèmes à régler avant, je pense, que ton problème de perf.
Exactement. Non, si ça peut être un truc marrant. Donc voilà, des tests de perf qui font des erreurs 500 passer un certain nombre. Bim, on leur montre regarde les logs, tu peux les voir sur cette plateforme. Voici comment tu fais tes recherches. Bah tiens, là, il y a un moment donné où en fait, il y a une connexion qui se refuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que des perfs font que tu as du mal à communiquer? Enfin, pourquoi est-ce que de la charge fait que tu as du mal à communiquer avec ton Redis ou avec ta base de données ou avec ton API? Et on va se poser des questions comme ça. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement faire à plusieurs, donc pairé ou mobé, le pair donc en binôme et le mob en groupe, donc faire des ateliers en fait où on se pose à plusieurs les questions qu'on devrait se poser, et ça part d'un milieu qu'ils connaissent puisque c'est le code qu'ils ont fait eux-mêmes quand même la plupart du temps, et après par contre on les attire discrètement vers le côté un peu sombre, c'est une base de données, ça a une limite de connexion, et en fait tu les libères pas ou tu les recycles pas, tu les laisses ouvertes trop longtemps, et donc au bout de 200 pouf, on craque quoi. Et et pourquoi, qu'est-ce que c'est que des connexions, qu'est-ce que c'est qu'un pool, etc. Et donc là on l'a attiré vers la pendante, enfin la tenante système un peu de l'histoire quoi.
Ouais, par le côté, regarde, si je pousse un peu le truc dans les retranchements, regarde ce que ça donne quoi.
Ouais, en plus aujourd'hui quand même, là j'y pense avec les tests de perf, par exemple les tests de perf, aujourd'hui on peut les faire avec des outils, je me souviens on utilisait beaucoup Kotlin, on utilise encore beaucoup Kotlin, mais là j'ai essayé par exemple artillery.io qui est en fait du YAML et du JavaScript. Donc ça, quand même, pour un développeur Node.js, par exemple, ou un développeur, on va dire, un peu qui aime les langages un peu modernes, je vais pas dire, non, en fait, je vais pas dire ça, puisque ça sous-entend le Gatling, c'est pas, du coup, le Scala, il est pas moderne, mais bon, enfin, c'est plus agréable, je pense, de coder un test de perf avec Artillery, par exemple, qu'avec des outils qu'on avait avant, et du coup, la barrière à l'entrée, elle est quand même plus faible, quoi. Le coût à l'entrée est quand même plus faible.
Ok, et justement pour aller au-delà de ça et augmenter encore la transmission, et qu'est-ce que tu vois comme autre outil?
Alors je vais essayer un peu de sortir des sentiers battus, on va dire, c'est-à-dire qu'au-delà des formations, des trucs comme ça, y a quelque chose que j'aime bien, moi, c'est, j'ai vu, nous qu'on fait pas mal, c'est ce qu'on appelle des espèces d'exercices d'investigation ou des wargames, comme ça se voit. C'est-à-dire qu'on va préparer une VM où il y a quelque chose qui est caché. Et on va demander, et on va montrer à la personne en fait comment c'est censé marcher. Donc typiquement, j'ai deux applications, enfin j'ai deux VM, une qui fait proxy, reverse proxy, et l'autre qui est ma vraie application, et pourquoi pas une base de données. Donc je montre que cette application elle dit Hello World et elle compte le nombre de fois où je vais sur la page. Et après je lance un petit script qui va casser mon application en fait. Par exemple, qui va remplir le disque. Le disque rempli, c'est à mon avis le problème numéro un rencontré à gauche à droite par des gens qui gèrent des serveurs quand même. Numéro un dans le sens où c'est celui qui leur arrive le plus souvent dans des infras un peu classiques. Et donc on va leur faire un exercice comme ça, on va leur dire bah voilà, maintenant toi t'as un accès à la VM, viens, on va ensemble, enfin toi t'as le clavier et tu peux me poser des questions, mais moi je vais fermer ma bouche et on va voir comment tu t'en sors.
Oui, donc c'est vraiment des mises en situation, tu casses un truc et tu vois comment l'autre s'en sort, quoi.
Ouais, c'est l'inspiration. On s'est demandé à un moment donné comment, enfin pour donner de la connaissance à des développeurs juniors, on fait souvent des katas, des dojos, enfin donc des exercices un peu, comment on appelle ça, canoniques.
D'entraînement.
Ouais. Ouais, exactement, de code. Et comment ça se fait que c'est rare de trouver ça pour de l'ops? Qu'est-ce qui rend ça si difficile? Bon, souvent, c'est quand même qu'il faut une infra, mais aujourd'hui, l'infra, ça coûte pas cher, puisqu'on a des machines virtuelles ultra faciles avec soit du cloud, soit même du Vagrant, hein, on demande pas la Lune, ou du Docker, enfin, tout ça, en fait, ça coûte pas cher, quoi, puisque c'est gratuit. Donc maintenant, en fait, on est capable de faire ces petits exercices d'investigation pour transmettre du savoir. Et au fur et à mesure de l'exercice, on fait pause, on fait « Ah, bah là, c'est intéressant, par exemple, je sais pas, on s'amuse à faire une application qui essaie de démarrer sur un port qui est déjà occupé. » On met pause, on explique qu'est-ce que c'est que les ports, comment ça marche, etc., etc. Donc, on peut rentrer vraiment profond dans le système à partir d'un problème que normalement beaucoup de développeurs rencontreront. Encore une fois, là je parle d'infra classique, hein, mais en fait des ports qui sont déjà occupés, bon, on retrouve ça quand même. Les histoires de ports, on retrouve ça encore dans les infras de conteneurs, donc c'est quand même quelque chose que beaucoup de développeurs, le réseau par exemple, pour citer un élément qui fait peur à beaucoup de monde, et parce que c'est ça peut être compliqué, mais le réseau, ça peut être passé sous silence de nombreuses fois par pas mal de gens, et pourtant c'est dommage parce que le réseau n'est pas fiable. Le réseau, c'est une donnée dans ce qu'on va dans notre application. C'est quand même rare maintenant les applications qui n'utilisent pas le réseau, qui communiquent pas avec l'extérieur d'une manière ou d'une autre. Ou avec un système de fichiers par exemple, et donc faut quand même avoir un minimum de connaissances là-dessus, voir que quand il y a tel message d'erreur, ça veut dire ah ok, le port est déjà pris, ou ah ok, en fait je me suis mis sur la mauvaise interface réseau. Au moins savoir qu'est-ce que ça veut dire les interfaces réseau, et que historiquement ça vient du fait qu'on mettait des cartes réseau, etc., etc.,
quoi. Eh ben écoute, je trouve ça super intéressant et je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci Victor d'être venu aujourd'hui.
Je t'en prie.
Quant à toi, cher auditeur, je t'invite à nous rejoindre dans l'arène, arène.artisan-developpeur, pour répondre à cette question. Préfères-tu développer ta polyvalence ou ton expertise? Je te dis à tout de suite.